Bon alors, nouvel épisode où on se retrouve seulement tous les deux parce qu'on devait avoir un invité qui a choke. Bah, il a choke, il est amoureux.
Il est amoureux, donc on le laisse, hein, il est dans sa lune de miel. Il m'écrit tout le temps, désolé, je suis dans ma lune de miel.
C'est vraiment... Il nous écrivait tout le temps avant, quand est-ce que je reviens, quand est-ce que je reviens, quand est-ce que je reviens. On va taire son nom, Hakim, ça se fait pas de le dire, tu vois, mais... voilà, on ne le dira pas plus que ça. Maintenant, on l'a dit.
Bon, il s'est engagé à venir au prochain, mais j'ai des doutes.
Donc c'est ça, on est mauvais sur la régularité, mais toujours de la qualité. Et ce soir, qui est l'après-midi, on va parler de plein de sujets encore une fois.
Ouais. Bah, c'est pour ça que c'est le meilleur podcast du Québec, parce que c'est irrégulier, mais c'est toujours superbe qualité, quoi.
Superbe qualité.
Puis c'est le seul podcast du Québec qui insulte les Québécois aussi. Je sais pas si vous avez écouté le dernier épisode, c'était...
Ouais, c'est ça, c'est genre, on se met toujours des gens à dos, et c'est ça que nous, on est...
C'est ça, on aime diviser. Ouais. On aime diviser.
On aime créer des débats. Et donc, premier débat, mec, justement, on va parler québécois, tu sais, genre.
Moi, je vais parler que québécois aujourd'hui.
Ok, tu parles avec l'accent aussi, là. comme notre ami Gad Elmaleh. Alors, jingle...
Une de nos sources d'inspiration aussi.
Une de nos sources d'inspiration, évidemment. Non, ben, nous, on pompe tout. On a pompé Gad Elmaleh. Mais littéralement aussi. Allez, jingle Québec.
Des croufements, souvent. C'est des gens qui boivent du vin, qui parlent fort.
Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme?
Excepté une fois au chef.
Quand on commence à connaître ces Français-là, ben, la plupart du temps, c'est préjugé.
Je voulais parler des relations... De voisinage.
Oh putain, j'ai un truc qui rejoint. j'ai un sujet qui rejoint.
C'est vrai?
Ouais. Vas-y, go on.
Ben, en gros, c'est ça. C'est genre, je voulais voir un peu les différences, c'était selon toi et tout, qu'il y avait avec tes voisins au Québec et qu'il y a avec tes voisins en France, tu vois. Et c'est. Comment toi t'envisages le truc avec tes voisins ici? Déjà, est-ce que tes voisins sont tous québécois?
Non.
Ils ont quel âge? C'est quoi la moyenne d'âge?
Tu veux le savoir, leur pointure de chaussures aussi?
Ouais.
Je dirais, c'est la trentaine. C'est la trentaine ici, parce qu'à mon avis, quand t'es plus vieux, tu vas vivre ailleurs. C'est quand même très cher et très centre de Montréal. Donc, je pense que quand t'arrives 40, t'as plus envie d'aller un peu en banlieue. En bas, j'ai deux Colombiens, David et Carolina. Je leur passe le bonjour. Super sympa. J'ai souvent fait des soirées avec eux. C'est rare que j'ai fait des soirées avec des voisins auparavant.
Okay.
Les deux autres voisins d'à côté, bon ben... Aussi, je les connais un peu moins, mais j'ai eu des aventures aussi rocambolesques.
Ah oui?
Ouais.
Raconte un peu.
Ben, en fait, hier...
Ah, hier?
Ouais, hier.
Ok, donc c'est très
récent. Comme quand on faisait l'anecdote et que je disais toujours tout à l'heure ou hier. Hier, en fait, j'étais avec mon E, la personne qui partage sa vie, et Sébastien Momer, qui sera un futur re-invité aussi. On était, donc, Étienne et Nequin sont partis. Et donc, je les ai laissés partir comme un malpropre sans fermer la porte derrière eux. Hop, nous, on sort de l'autre côté, du côté de la véranda, pour fumer un doobie. Et donc, on fume et tout, on discute et tout. Et puis là, mon pote, il va pour ouvrir la porte. Et je sais pas, il fait une manipulation incongrue. Et nous voilà enfermés dehors sur la véranda. On était en chaussettes, il neige, il y a de la neige par terre. Donc moi, je rentre en mode full panique. Je descends justement chez Carolina et David, je tape comme un fou.
Tu rentres pas.
Hein?
Tu rentres en full panique.
Je rentre en full panique. Et alors là, je descends comme un ouf.
Tu rentres nulle part.
Je descends l'escalier en chaussettes, vrai Québécois, plein de neige sur les yep. Je tape à Carolina, David, j'essaie de chanter une petite chanson colombienne. Estás sintiendo. Hop, ils répondent pas. Je dis putain, ils doivent être en soirée, tout fait chier. Je vais voir mon autre voisin. Je vois qu'il y a de la lumière. Je tambourine la porte. Je dis, il va flipper, il va croire que c'est un agresseur. Je le vois sortir complètement à Walp. Complètement nu, bite à, je dirais, 3 mètres de moi.
Bite à l'air.
Et puis là, je vois, il rentre dans sa chambre. Je me dis, ah, il s'est rendu compte qu'il était tout nu. Il ressort de sa chambre, tout nu encore, et il met son caleçon devant moi. Mais il n'a pas vu que je le regardais de l'autre côté de la vitre parce qu'il croyait que ça sonnait devant. Ouais, c'est ça. Il va à la porte de devant, là où j'étais pas, et en revenant, il me voit. Et alors là, il commence à dire, qui c'est ce gitan à ma porte? Ça me fait flipper et tout. Il se rapproche, il dit, oh putain, c'est le voisin. Donc je lui ai expliqué l'embrouille, je lui ai dit est-ce que je peux passer à travers chez toi parce que je pouvais pas sortir par le jardin, est-ce que je peux passer à travers chez toi pour aller chez moi? Il m'a laissé, donc je pense que je vais lui offrir une petite bouteille
de vin pour avoir du son cake. Bon, je te pose la question que tout le monde se pose, la bitasse.
En bétonnesse.
La bitasse en bétonnesse. Est-ce qu'il est sorti avec une demi-molle?
J'ai pas trop analysé parce que je me suis tourné un peu par pudeur, tu vois. Mais maintenant que j'y pense, j'aurais dû prendre une photo, tu vois.
Ouais.
Comme ça, je peux le faire chanter après, tu vois.
Écoute, tu vas baisser le son, sale bâtard, sinon je diffuserai ça à tout le monde.
Ouais.
Le mec n'est pas du tout démesuré dans ses actions.
Mais je t'ai sauvé la vie, je t'ai permis de rentrer chez toi. Je m'en bats les couilles.
Énorme. Donc, grosse relation de voisinage.
Ouais, quoi. Des bonnes relations de voisinage. En France, tes voisins, c'est des random, tu vois.
En France, tes voisins, c'est des random. Moi, c'est ça que j'ai un peu l'impression. Tu vois. Les seules interactions que j'ai eues avec mes voisins, en général, c'était pas souvent très plaisant. Tu sais, genre, c'était plutôt quand je pétais des plombs. Et j'étais souvent. Je me suis vachement adouci en étant ici. La première relation que j'ai eue avec mon voisin en arrivant à Montréal, c'était sur la rue Rachel avec mon coloc de l'époque quand on était arrivé ici. Puis le gars nous voit, il avait genre 38-40 balais. Nous, on en avait 25 quand on est arrivé. Puis, moi, j'en avais 25. Mon pote était un peu plus jeune. Puis, bref, il nous voit sur le balcon. Il dit ah, vous êtes les nouveaux, mes nouveaux voisins. On fait ouais, il fait attendez, les gars, et tout. Il revient. Il nous donne un petit pochon de weed sur la terrasse et tout. Trop cool, tu vois. Puis après, zéro relation avec ce gars-là jusqu'au jour où on faisait soirée sur soirée à l'appart. Et il tape dans le mur, mais tellement fort, mec, ça a fait une fissure. Là, j'ai vu la déformation
de ce gars. Le gars, c'est Iron Man, quoi.
Oh, ouais. Je te jure que ça nous a calmé, frérot. Ouais. On s'est tu. On a arrêté la soirée direct.
Là, tu dis,
non. Si on avait beau être 15 et tout, c'est genre, non, je veux pas d'un gars aussi fou. Et c'est ce qui me ramène à te parler d'une relation de voisinage qu'on a eue en France quand j'habitais avec mon frangin. J'habitais avec mon frangin le temps de savoir si les études supérieures à Rennes, ça le faisait. Finalement, non, je suis retourné à Concarneau. Mais bref, j'étais chez lui et chez sa copine, donc je dormais dans le salon. Et à l'époque et tout, on a fait quelques soirées, notamment une fameuse crème anniversaire où crémaillère et anniversaire en même temps. On a fait tellement la fête fort que le voisin du dessous est monté une première fois nous demander de baisser. Finalement, on a continué de faire du bruit. Il est revenu. Sa meuf le bloquait à l'entrée. C'est-à-dire que quand l'ex-copine de mon frère a ouvert la porte, elle a vu la voisine en travers de la porte essayer de bloquer son mari qui, lui, était avec un marteau et un couteau dans l'autre main, mon gars.
Un marteau, une faucille.
Un marteau, une faucille, mon gars. C'était l'URSS, quoi. Il venait nous mettre au goulag. Et j'en parle parce que voilà, on s'en fout, on n'a pas les prénoms, mais ce dude vivait donc avec sa femme en dessous, il se bourrait la gueule, tu les entendais se mettre sur la gueule souvent. Et il y avait ce truc de quand je passais, comme ils étaient au rez-de-chaussée, je voyais parfois dans l'intérieur, la plupart du temps les volets étaient fermés, mais quand ils étaient ouverts, c'était Trainspotting à l'intérieur, c'est-à-dire que tu avais un matelas par terre et une photo d'une map monde, enfin une photo, une map monde, mais à l'envers. La seule déco, tu vois.
Ouais.
Genre badant à souhait. Et ce gars-là était venu, et je me rappelle, mon frangin était là en mode, mais vas-y, on va y aller et tout. Voilà. Et le mec, c'était n'importe quoi.
Cette histoire.
On a calmé le jeu, et finalement, tout le monde est reparti chez lui. Il y a eu zéro premier sang versé, donc tout va bien. Mais, en effet, c'était quand même plus. Tu vois, je m'imagine pas ce genre de situation ici au Québec.
Ouais,
zéro. Quoique, ça peut arriver. En tout cas,
moi, je voudrais. Je vais rebondir là-dessus. Parce que souvent, comme tu dis, les voisins, on les rencontre, malheureusement, en France, puis même ici, parce qu'on fait trop la fête et qu'ils viennent taper et dire ouais, vous faites trop la fête. Sauf qu'ici, c'est un peu plus insidieux. Et moi, j'ai remarqué que la culture de la dénonciation au Québec, après 3 ans, elle est quand même bien établie par rapport à en France, tu vois. Ça a l'air de pas trop déranger les gens. Pour faire un petit test, parce que vous me connaissez, je suis quand même un reporter terrain.
Oh oui, c'est toujours très documenté.
Je suis allé sur Google
et
j'ai tapé « dénonciation Québec ». Premier résultat. Pour faire une dénonciation, utilisez notre formulaire sécurisé ou appelez-nous avec signalement confidentiel. Donc, j'ai trouvé 4 sites. Le site de l'UPAC, je pense, c'est l'équivalent de l'IGPN. Le site de la RAMQ, possible de faire une dénonciation. Donc la RAMQ, c'est la Sécurité sociale. Le site de Revenu Québec, donc les impôts, possible de faire une dénonciation. Et évidemment, le site de la police où tu peux faire une dénonciation. Donc, je ne pense pas que ce soit rémunéré, la dénonciation. Mais en tout cas, il y a un numéro où tu peux la faire sans... tu vois, on s'en bat les couilles. Alors que j'ai tapé « dénonciation France » et je suis tombé sur la page Wikipédia de « dénonciation ». Tu vois, en France, tu peux faire...
Okay,
il y a zéro numéro pour dénoncer, tu vois.
Tu vois, tu crois ?
Ah bah oui, j'ai cherché.
Gros. Main courante, en fait, en France.
Ouais, mais main courante, c'est pas pareil, frère.
Ouais.
Main courante, c'est quand t'es victime. Parce que c'est ça le truc, c'est que je voudrais définir un peu la dénonciation. Je parle de délation, je parle de dénoncer une situation.
C'est-à-dire, j'ai vu quelque chose qui m'a pas impacté moi, mais je l'ai quand même reporté.
Je parle de dénoncer une situation dont on n'est pas la victime. Sinon, c'est un dépôt de plainte, tu vois.
Okay.
Et donc en fait, ça, en France, ça, tu vois, tu peux pas faire une...
Historiquement, on a un peu de mal avec ce truc-là.
En fait, j'ai vu un article de la presse, donc c'est le site La Presse, hein, c'est
pas ouais, l'optique, la presse.ca.
Ouais. Qui dit que, tu sais, pendant le début du confinement, le service de police de Montréal a reçu des centaines d'appels de dénonciation au début du Covid. Wow. À cause de l'interdiction des rassemblements. Ouais, genre tout le monde était en train de poucave. Donc il y a eu une
invitation. Il y a eu ça un peu.
Ouais, mais là il y avait une invitation faite au public pour dénoncer les situations anormales, tu vois. Et apparemment ils ont croulé sous les appels parce que tout le monde dénonçait, tu vois. Donc il y a un sociologue.
Genre le site a saturé, comme une vente de billets.
Ouais, enfin le téléphone a saturé, tu vois. Le gars était arrêté, laissez-les se rassembler, c'est bon. Donc, il y a un sociologue donc, qui s'appelle Joseph Yvon Thériault, c'est son vrai nom, qui commente et qui dit que les régimes de dénonciation ont effectivement mauvaise presse, no shit, parce qu'ils ont beaucoup été associés aux régimes dictatoriaux, donc ce que tu disais. Les exemples de l'Allemagne nazie où le gouvernement Vichy à la pluie, les gens se soupçonnaient entre eux, se dénonçaient entre eux. Dans un régime de dénonciation, il y a toujours des dérapages. Et c'est ce que je pense qui fait que chez les Français, la dénonciation, c'est grave. C'est qu'on a un peu cette mémoire collective, tu vois, de 39-45, où la dénonciation, ça amenait les gens en camp de concentration à mourir, quoi.
Ouais, ouais. Donc, je pense juste d'être humain, en fait. Genre, t'as pas trop envie de dénoncer ton prochain, tu sais.
Ouais, mais en même temps, tu vois, tu peux te dire, tu sais, si t'entends ton voisin qui tape
qui
sa meuf.
Qui n'a jamais péché.
Non, mais si t'entends ton voisin qui tape sa meuf, t'as peut-être intérêt à dénoncer. Y a quand même, c'est quand même assez tricky, tu vois. Et dès que t'es petit, c'est vrai qu'on t'enseigne. Nous, on disait, je sais pas quoi, on disait les cafards, on les écrase avec les pieds quand les gens ils dénonçaient. C'est quand t'es petit à la maternelle et tout, on dit ah c'est pas bien de dénoncer et tout.
Non, clairement.
Mais je sais pas si ici c'est pareil, tu vois. Et donc ça me rappelle une histoire de voisinage qui était l'ancien boss de ma meuf qui s'appelle Jean-Luc, big up à toi. Et il était avec son fils en fait dans une soirée chez des potes et le fils s'était endormi, il était petit, tu vois, il avait 3-4 ans. Et donc bon, lui fait sa soirée et tout, puis ça commence à être 2h du mat, il dit je vais réveiller le fiston et je vais rentrer chez moi. Donc il réveille le fiston. Fiston pas content d'être réveillé. Il le met, donc vous savez l'hiver quand il y a plein de neige, il le met dans la luge parce qu'on peut pas avoir de poussette, on les met dans la luge. Donc il a mis le gamin dans la luge et il l'a traîné jusqu'à chez lui. Le gamin pas content, il faisait que gueuler, pleurer. Puis il arrive chez lui, il fout le gamin au lit et tout. Puis là il entend ça sonne à la porte. Il ouvre, c'est la police. Bonjour, on nous a dénoncer un kidnapping, est-ce que vous êtes avec un enfant, comment ça se passe. En fait, il y avait des gens dans la rue qui l'avaient vu traîner une luge avec un enfant qui criait, ils ont dit c'est un gars qui kidnappe un enfant. Et ils ont appelé les flics.
Ah ouais, ça.
Ouais.
Ah ouais, ouais, ça escalade vite.
Ouais. Et donc lui, il a pu régler. Je connais même pas la fin de l'histoire, mais je pense qu'il a pu, régler puisqu'il est pas en prison. Le flic s'est barré.
J'espère que le gamin avait ses papiers, quoi.
Mais ouais,
t'imagines, tu te fais enlever ton kid, le traumatisme.
Non, mais ouais, genre alors
après,
c'est le tien.
Tu deviens méga suspicieux en plus des gens qui t'entourent, tu vois.
Ouais, c'est grave. Et j'imagine, c'est le gars derrière son rideau qui regarde alors est-ce qu'il se fait arrêter par la police ou pas, est-ce que j'ai fait ma bonne action. Et alors qu'il aurait dû, tu sais, peut-être plus essayer de comprendre, de sortir, dire monsieur, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cet enfant et tout. Il lui expliquait, c'est mon fils, il est grognon, tu vois. Mais ouais, c'est ce que je disais, si jamais c'était un vrai kidnapping, bah, il aurait quand même sauvé une belle vie, le gars, tu vois.
Ouais.
Mais tu sais pas en fait. Et t'as pas, tu sais, je suis d'accord, t'as pas envie d'avoir ça sur la conscience, mais tu sais jamais si t'as pas un degré de certitude assez haut pour dire je sais que c'est ça qui se passe, tu vois.
Je l'ai fait une fois ici, moi.
Ah ouais?
Ouais, je l'ai fait une fois. J'ai vu un gars, c'était dans ta rue d'ailleurs, mec. Est-ce que c'est la piscine, elle est juste en face là?
Ouais, ouais.
Ouais, ok, bah, c'était exactement ce coin de rue là, il y a 3-4 ans. Et il y a un doute qui était en train de forcer des bagnoles, mais en plein jour, tu vois.
Ouais, mais là, il y avait pas de doute. Il n'avait pas perdu sa clé.
Ouais, c'est ça. Genre, il y avait plein de matos à l'intérieur de la bagnole et je passais à côté et je voyais le gars et tout qui essayait plusieurs portes, mais il avait l'air foncé. Et donc, j'ai appelé la police qui m'a rappelé plus tard pour me dire ouais, mais moi, j'aurais dit bah, moi, je reste pas, je me barre. Tu vois, genre, je vais juste vous reporter coin telle rue, il y a un gars qui est en train d'essayer de forcer des bagnoles. That's it, that's all.
Mais ouais, t'as pas
c'est arrivé, ça arrivait à mon grand frère qui me racontait ça justement dans son appart à Rennes, là où on avait le fou qui était venu avec la faucille et le marteau. Un soir et tout, il avait entendu des gars comme ça parce que proche du centre-ville de Rennes, et puis on connaît Rennes et tout pour ses fêtes la nuit et tout, il y a quand même pas mal de viande saoule et tout. Puis les gars étaient en train de descendre la rue, étaient dans la sienne, et passent où il y a plein de voitures, tu vois, et passent, et en gros, ils étaient en train de forcer, ils étaient en train d'essayer de péter une vitre de bagnole, et en fait, c'était la leur, tu vois.
Ouais, ça m'est déjà arrivé de péter ma vitre en plus.
Les flics sont arrivés, et finalement, ils leur ont rien fait, tu vois, parce que c'était la bagnole des gars, tu vois. Sauf que les flics sont partis et tout. Puis après, les gars, ils étaient là. Ouais, et tout, on sait que c'est toi, là. T'es où et tout? T'es planqué où?
Ils savaient que c'était ton ref?
Non. Mais tu sais, ils gueulaient tu vois, en mode, on va te trouver et tout. Ils se font l'enfoiré, tu vois.
C'est un peu ça le truc, tu vois. C'est que.
Plus mais le sang chaud, tu vois.
Mais après, tu vois, j'en ai parlé à des Québécois parce que, comme vous le savez, je suis quand même un reporter terrain. Et moi, ils m'ont dit non, tu vois. J'étais avec quatre Québécoises et elles m'ont dit non, moi, j'ai jamais dénoncé de ma vie et c'est pas dans ma culture la dénonciation, tu vois.
Non, c'est ça.
Je me suis déjà fait dénoncer. Quand il y a le parter trop fort, ça peut m'arriver, mais je suis pas à l'affût de regarder ça, donc je voudrais pas faire des généralités. Mmh. Je trouve que juste ici, c'est plus facile de dénoncer qu'en France. C'est un petit peu plus encouragé dans le sens où t'as des numéros, des trucs que tu peux faire. Je finis sur l'analyse du sociologue qui dit « Une société démocratique est une société où on fait confiance au bon fonctionnement des institutions, à la santé, à la police, aux gens qui assurent l'ordre. En un mot, on n'assure pas l'ordre soi-même. » C'est peut-être pour ça, tu vois, qu'il ne faut pas dénoncer si tu as confiance au système dans lequel tu vis. Le bon citoyen est quelqu'un qui va suivre les consignes, faire confiance aux institutions et en dernière limite dénoncer, résume-t-il. De façon générale, le bon citoyen ne fait pas la loi soi-même. Je termine avant de fermer ma petite boîte à camembert par une petite citation. Quand les délateurs sont récompensés, on ne manque plus de coupables. Mic drop. Il coûte cher les mics, donc
vraiment,
je le drop pas.
Vraiment, mais je pense que c'est une bonne conclusion à cette affaire-là.
Mais c'est vrai. Et t'as vu le conducteur, n'empêche. Ça parle de voisinage, on va vers la dénonciation.
C'était très bien foutu.
C'est bien préparé
cette
émission.
Alors qu'on n'avait rien préparé. C'est ça qui est cool dans la boîte à camembert. Alors, on va passer à un autre sujet. Peut-être qu'on se fait une petite pause.
Tu veux?
Allez, on se fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Et oui, on est de retour. Merci pour tous ces applaudissements. Alors, on passe tout de suite à un nouveau sujet. J'avais envie de parler de BD ou de ciné.
Et il sait toujours pas.
Je sais toujours pas.
Alors, votez, s'il vous plaît. Votez. Un bon BD, deux pour ciné.
Hop, et Maître Nadjar, c'est le cinéma.
Le ciné, bravo. Merci
en fait,
à tous les
votants. En fait, c'est un sujet ciné, musique. Alors, on va faire je vais mettre les deux jingles en même temps.
Vas-y.
Allez, c'est parti. Et oui, parce qu'en fait, je voulais parler de ce truc dont on entend tous parler en ce moment. Je ne sais pas si tu as vu
Squid Game.
Ce reportage. Oui, alors c'est Squid Game. Non, pas du tout. C'est
Dune.
Non, les reportages docu style musique. Donc, tu vois de quoi je parle. On parle du film de Aurel San, Ne montre jamais ça à personne.
Oui.
Du truc de Angel aussi qui vient de sortir.
Oui.
Et je trouve que c'est des putains de produits de marketing, en fait, tout simplement. Tu vois, je trouve que c'est méga bien fait. J'ai adoré regarder le docu d'Aurel San et tout. J'avais l'impression de partager une tranche de vie avec un membre de ma famille, tu vois. Parce qu'en effet, le mec a une vie très simple et tout ça. Il vient de Kant et il le dit lui-même dans ses chansons et tout. Je pense que c'est ça aussi qui rassemble un maximum de gens derrière. Mais son reportage est vraiment à l'image de ce que le mec véhicule et tout. Et j'ai vraiment apprécié, tu vois. Et c'était pas anodin de le sortir. Et Angel a fait la même chose, tu vois. Ils ont tous les deux sorti leur documentaire avant leur nouvel album. Et je pense que niveau marketing, mec, ça
rappelons que Aurel San, il a mis en précommande son album. Il n'y avait aucun titre qui était sorti pour les ventes physiques. Il a été disque d'or alors que personne n'avait écouté aucun morceau.
Exact.
Genre, c'est juste le concept qui a fait vendre, quoi.
C'est fou.
Il a vendu 40 000 CD, donc presque disque d'or, sans avoir sorti l'album, sans que personne l'ait écouté, juste sur le concept de C'est Aurel San qui sort un album, tu vois.
C'est ça. Les mecs de la communication devaient se frotter les mains, c'est évident. Ils ont été excessivement bons là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, genre, il y a le côté, en fait, documentaire et tout, qui est très intéressant et tout, de pouvoir partager, comme je le disais, là, un moment avec ton artiste, l'impression un peu de rentrer dans son intimité. Puis en même temps, t'as ce truc de, tu sais, il y a une époque où les stars, dans les années 90, début 2000 et tout, les stars, c'était vraiment des personnes dont on ne savait pas grand-chose, finalement. Tu vois, il y avait les magazines People qui existaient, mais elles étaient vraiment mises sur des piédestals, tu vois. Des piédestaux d'ailleurs même si on l'accorde mais
je te l'accorde
ils étaient sur voilà tu sais genre vraiment tarifiés quoi
c'est ouais genre vraiment le mec un peu mystérieux et un peu alors que maintenant c'est le contraire
alors
c'est
que les gens tu peux envoyer des DM quoi à tes stars et ils se filment non-stop pour montrer en fait leur quotidien qui n'est pas réellement différent d'une autre ou alors te faire kiffer et tout quand on parle d'influenceurs et tout ça qui sont tout le temps dans des hôtels paradisiaques mais c'est ça ouais en effet le fait de pouvoir communiquer non-stop avec ces réseaux là puis t'as des mecs en fait c'est qu'on saturait de ça tu vois notamment l'homme pâle tu vois qui avait lui aussi sorti un documentaire alors lui je pense que c'était post-album
mais ouais moi je disais j'avais regardé le parce que tu dis ouais il est sorti après l'album et c'est une autre technique marketing c'est j'avais regardé le reportage sur Vald Xe qui en fait l'album était sorti l'album j'avais pas mal pensé. Et t'as le reportage après sur tout comment ils ont tourné l'album, comment ils ont enregistré l'album.
Ouais.
Et ça redonne une dimension et ça ramène un second souffle au projet, en fait. Parce
exact.
Que tu te replonges dans l'album et ce reportage, j'ai dû le regarder 6 mois après que l'album soit sorti. Je l'avais pensé, j'arrêtais un peu de l'écouter. Bam, je me suis replongé dedans, tu vois. Le reportage de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes
c'est
aussi.
Ce que j'allais dire.
Bam, je me suis replongé dedans.
Moi, c'est ça, Les Étoiles Vagabondes, c'est après avoir vu le docu que j'ai davantage écouté. Je pense que j'étais en train d'un peu d'écouter l'album, mais le fait d'avoir vu le docu, j'ai quand même fait, vas-y, et tout, je vais le saigner. Ouais. C'est ce qui lui a permis aussi d'être l'album le plus écouté en 2020 alors que l'album était sorti en 2019.
Ouais, je me demande si en 2021 il n'a pas été un des albums les plus écoutés
ouais,
encore.
Ouais, aussi, ouais, c'est possible.
Mais le truc, c'est ça, c'est que tu arrives à donner une dimension à un projet beaucoup plus global. Et parce qu'en fait, le fait que tu saches la recette et que tu saches l'histoire derrière aussi, toi, ça te fait aussi plus kiffer parce que tu te dis, je clique mieux avec l'artiste, je comprends mieux ce qu'il a voulu dire dans le reportage de Nekfeu quand tu vois qu'il est allé à la Nouvelle-Orléans et que effectivement il y a vraiment eu une tempête là,
l'ouragan,
l'ouragan, et qui raconte dans une chanson. Tu l'écoutes la première fois, tu te dis, ah, c'est un truc fictif, mais en fait non, t'es là en mode ouais, il y a les images et tout de quand il y avait la tempête. Je crois il y a une punchline, c'est joue de la trompette en pleine tempête, et je crois que t'as l'image du gars qui joue de la trompette
c'est possible,
dans la
c'est
tempête,
possible.
Je crois.
Ouais.
Et donc, t'es là en mode, ah ouais, je vois ce qu'il veut dire. Parce
exact,
que
je... exact. Ouais. Il y avait aussi Mr. V qui avait, Mr. V qui avait fait un docu. Ouais, c'était sorti sur Black Pills, l'application.
Ouais.
Qui est une application, alors pour ceux qui ne connaissent pas, une application qui a pas mal fait de contenu vidéo gratuit, en fait, mais seulement visualisable sur le téléphone.
Sur l'appli. Hein.
Sur l'application. Je vous recommande parce qu'il y a des petites pépites. Alors, je ne sais pas si c'est... J'y suis pas retourné depuis très longtemps, mais il y a de ça 4-5 années et tout, j'ai découvert des petites perles, que ce soit de l'animation française ou même des trucs un peu plus poussés, quoi. Mais il y avait ce truc-là, donc, des épisodes de Mr. V. Et donc, ça se mate en écran vertical, tu vois.
Ouais.
Tout le reportage se mate en écran vertical.
J'ai regardé le reportage sur Taylor Swift.
OK.
Et c'est terrible. C'est terrible, tu vois que la meuf, c'est Miss Americana, tu sais, une des chanteuses préférées des Américains.
C'est ça.
C'est censé donner une bonne image d'elle, mais ça donne pas du tout une bonne image d'elle. Tu vois que c'est vraiment une meuf qui est blindée d'argent et qui
pense
a
que
un
c'est
cliché,
ça,
tu vois.
Tu sais, le romantisme dont on parle à la française, je pense qu'il est lié à ça, tu vois, au fait que... on sache montrer un côté des artistes et tout qui sont pas forcément sur le glamour, tu vois,
sur le vrai
et sur sur le superficiel, tu vois. C'est nous dans
là,
nos reportages
très sur le glamour, sur le
c'est ça, tu vois.
Et puis même, tu vois, j'ai regardé celui sur Lady Gaga et t'es en mode, tu sais, Lady Gaga, c'est quand même une meuf qui a l'air très profonde, tu vois, elle est très extravagante, elle dans les, tu les vois dans toujours des tenues de fou, elle fait putain, elle a l'air conne dans ce reportage.
Ah ouais.
C'est une pourrie gâtée qui veut son, qui fait des caprices de star. Qui... Alors que le reportage, il est pas censé montrer ça, mais quand tu le regardes d'un œil un peu avisé, t'es en mode putain, mais elle a l'air trop conne en vrai. Okay. Tu... Alors plutôt que de s'attarder sur la création musicale, sur comment ça se passe et tout, tu sais, il s'attarde sur des trucs people, de oh my god, I need my tea
at 4 a.m.
Pas très intéressant du tout. Bon, donc des fois, ça peut un peu. Ça peut un peu tuer le truc aussi, je trouve.
Ok, alors on passe à un autre sujet. J'espère que vous avez kiffé ce petit instant musique, ciné, docu. Si vous avez envie de réagir, bah, vous savez comment faire. Vous essayez de nous trouver sur les réseaux, puis vous nous laissez des messages. Allez, on envoie sur un petit sujet. Je pense que tu voulais nous parler d'une page, tu voulais tourner une page de l'histoire.
Historique.
L'histoire sans fin, alors jingle.
Vous comprenez pourquoi cette histoire a marqué les esprits?
Ça remonte à quand, ça?
Oh, entre le 11e et le 14e siècle.
Mais là, on n'est pas sorti de l'auberge.
Oui, alors moi, je voudrais te parler de Pierre Esprit Radisson.
Pierre Esprit Radisson,
oui.
Fils du Radis, c'est un peu moi, quoi.
Oui, c'est un peu toi. Pierre Esprit Radisson, donc déjà.
Radisson.
Le blaze.
Pierre Esprit. Pierre Esprit, prénom composé.
Prénom composé. C'est quand même un blaze incroyable de composer d'un prénom et d'un nom commun random. C'est comme si c'était Jean Conscience, Michel Fantôme, Frédéric Climat, Julie Marron. Tu vois.
Oh, ça serait ouf.
Ah, ça serait dingue. Pierre Esprit Radisson est né probablement à Paris vers 1936. Okay, donc, ça... on ne sait pas trop, tu vois.
Ah ouais, vraiment, le mec, il est apparu comme ça, quoi.
Ouais, bah, tu sais, après, avant une certaine date, ils ne savent pas trop, mais oui, le mec est apparu. Je pense que le mec est apparu, genre, oh, salut, Pierre Esprit, tu vois. Ce gars-là, faux français, puisqu'il est né à Paris, il a émigré en Nouvelle-France à l'époque, devine quand?
En 1950.
Non, On sait pas non plus.
Ah bah non, on sait pas, évidemment.
Et puis c'est en 1600 que je te parle mon histoire.
Ah, c'était 1600, ok.
Ouais, c'est en 1636.
Ah ouais, c'est pour ça qu'on a moins de...
Ouais. Donc on sait pas non plus quand est-ce qu'il a immigré, à un moment donné. C'est un peu comme la boîte à camembert, c'est très peu documenté aussi cette histoire-là. Donc, ce gars, il a immigré en Nouvelle-France, donc il est apparu aussi, je pense, en Nouvelle-France, et il est capturé par des Iroquois. Peut-être en 1651. J'ai un peut-être cette fois.
C'est quand même précis, bien. Ça, c'est pas autour de. Peut-être.
Peut-être, ouais, c'est plus précis. Et en fait, il se fait capturer par des Iroquois. Donc, c'était un colon.
C'est moi qui ai écrit l'article, mon gars, c'est à peu près.
C'est moi qui ai écrit l'article. Ah. Non, sur Wikipédia et tout.
À peu près.
Ben, j'ai vu sur Wikipédia qu'il y avait ces dates-là.
Okay.
Mais c'est ça le truc, c'est que tout est à peu près. Donc, ce gars-là, il va en Nouvelle-France, où j'ai colonisé, je suis français et tout. Hein. Et là, il se fait.
Peut-être que c'était la Corse. Peut-être.
Chien. Et donc, il se fait capturer par des Iroquois.
Ok.
Et en fait, ce gars-là est trop sympa. Donc, les Iroquois, ils sont en mode oh, regardez-moi cette petite bouille, allez, on le garde, allez, tu vois. Et finalement, ben, il vit avec les Iroquois, tu vois. Il passe 2 ans avec eux, il apprend la vie d'un Iroquois, donc il se fait probablement une crête.
Waouh.
Je sais pas si c'est raciste, une Iroquoise. Très mauvaise blague. Il apprend à parler leur langue, tu vois, mais au bout de 2 ans, il en a marre, il se barre. On sait pas trop pourquoi, peut-être qu'il voulait changer de coupe de cheveux, que le grand chef voulait qu'il garde Iroquoise, il s'est barré, tu vois. Puis, il se fait rattraper, en fait. Et il se fait recapturer. Et il se fait torturer par les Iroquois.
Mais il va pas très très vite, alors, du coup.
Non. Ils l'ont chopé, recapturé, torturé, tu vois. Et puis, ils se sont dit, regardez-moi cette petite bouille. Allez, on le garde.
De nouveau.
De nouveau. Donc, il se réintègre, pareil. Il fait même des petites expéditions guerrières avec les Iroquois, tu vois.
Ils arrivent au village, ils sont là, mais non, mais les gars, mais on peut pas le tuer. Regardez cette petite bouille.
C'est exactement ça.
Il lui pince les joues. Regardez-le. Qui a envie de tuer
Et il continue.
On lui a coupé quelques doigts de pied.
Peut-être, mais bon.
Mais il a toujours cette petite bouille.
Ouais. Il fait, tu vois, expédition avec les Iroquois et tout. Il fait partie de la bande. Puis, bah, il se barre encore. Mais cette fois, il paraît que c'est parce qu'il n'a pas voulu fumer sur le calumet du chef indien. Et le chef indien l'a très mal. C'est pas du tout vrai. Donc, il se barre une deuxième fois. Et là, dans sa fuite, il arrive à Fort Orange. Rien à voir avec le fruit, c'est un truc, un fort contrôlé par des Hollandais, tu vois. Wow. Donc, le gars, il devient interprète pour les Hollandais. Et il a tellement kiffé les Hollandais qu'après, il se barre à Amsterdam.
Ok.
Bon, Amsterdam... bizarre un peu, tu vois, il revient. Donc le mec, on est en 1636, il fait un Paris, Nouvelle-France, hop, il se fait capturer, il se fait recapturer, hop, il part à Amsterdam, hop, il revient. Il revient à Montréal, là, il bosse pour les jésuites.
Mais c'est nous, en fait, ça.
Ouais, c'est grave nous. Mais les mecs, c'est à chaque fois, tu sais, c'est 2 mois de bateau. Hein.
Bah ouais, c'est vrai.
Il est là, donc il bosse pour les jésuites à Montréal. Mais les Iroquois, ils sont un peu vénères contre les jésuites parce qu'ils sont malades. Et ils pensent que c'est la faute des jésuites qui sont malades, qu'ils auraient ramené des maladies. Mm-hmm. Donc, ils sont un peu en mode Wuhan.
Ok.
Voilà, comme nous, on l'a été il n'y a pas si longtemps.
Donc, ils confinent.
Donc le gars, voilà, donc il est avec les jésuites, hop, ils savent que les Iroquois, ils veulent les enculer un peu, donc il leur dit, ok, vous inquiétez pas les jésuites, je connais bien les Iroquois.
Refaire la même coiffure.
Je sais ce qu'ils aiment les Iroquois, ils aiment se mettre des gros gueuletons. Et quand ils se mettent un gros gueuleton, l'Iroquois, c'est pas le gueuleton mandarine, quinoa, baie de goji, tu vois, c'est du gueuleton Gérard Depardieu. Genre, ça se met 3 chevreuils, 5 écureuils, ils se cassent le bide, tu vois. Donc, il se dit, comment je vais les inciter à faire un
chevreuil, 5 écureuils. Ouais. Par personne.
Par personne, bien sûr. Il dit, comment je vais les inciter à faire un gueuleton. Et donc, en fait, il est apparu dans un rêve des Indiens. C'est vraiment écrit dans l'histoire.
Il est apparu.
Il est apparu, encore une fois, dans un rêve des Indiens. Et il leur a dit, ouais, gueuleton.
Énorme.
Et donc les gars, c'est vraiment dans sa bio. Et donc les gars, bah, gros gueuleton, Hamdoula.
Donc les mecs, juste, ils ont fait un rêve commun.
Ouais.
Genre, ils étaient tous en train de rêver. Bon, allez, bonne nuit.
Gueuleton demain.
Hey. Ah, peut-être, je sais pas, ça dépend. Ils se sont endormis. Et là, le lendemain matin et tout, putain.
On se met un gueuleton.
Mais ouais. Moi aussi, j'ai rêvé de la même chose. Il était là avec sa petite bouille, trop sympathique,
ouais, c'est ça.
À nous proposer un gueuleton.
Ouais, c'est exactement ça qui s'est passé.
On le retrouve.
Non, ils l'ont pas retrouvé. Ils se sont juste mis un gueuleton. Okay. Et pendant ce temps-là, eux, les jésuites, ils ont pu fabriquer des, enfin, partir sur des canaux et esquiver les Iroquois, en fait.
Ok, donc le mec a réussi à les tricks
grâce
en apparaissant dans leur rêve.
Oui.
Wow.
Oui. Et ils ont rejoint Montréal en canot grâce à ça.
C'est Freddy Krueger, quoi.
Ah ouais, le gars puissant, puissant. Mais attends, c'est pas fini. Parce que le gars, il devient coureur des bois.
C'est un sorcier.
Tu sais ce que c'est un coureur des bois ?
Un coureur des bois, non mais tu, bah, oui, tu vas me le rappeler.
Ouais, un coureur des bois, c'est un peu un gars entre un explorateur et un vendeur de Zara, tu vois. En gros, il va dans les bois solo, il chope des animaux, il prend la fourrure, il la vend, mais c'est complètement illégal, tu vois. Il n'a pas de permis ni rien, mais les gens, ils allaient découvrir, en fait, explorer la forêt, ils trouvaient des animaux, bam bam, hop, petit toc de raton laveur, hop, ça se fait bien, tu vois.
Ouais. Écureuil, grenouille.
Ouais, donc ils ont permis, tu vois, de découvrir pas mal de terrains, mais ils ont aussi beaucoup piqué de boulot aux Premières Nations parce que c'était eux à la base qui faisait la fourrure, tu vois. Mm-hmm. Donc là, Radisson, il est coureur des bois, il fait du bif, tu vois. Il est plus Pierre Esprit, il est...
En esprit.
Pierre Moula.
Ah
Oh là là. Je croyais que t'aurais la rêve, je suis deg. Mais c'est illégal. Donc en ce moment, il se fait serrer. Il se fait serrer, grosse amende. Non, t'as pas le droit de vendre de la fourrure sans permis. Grosse amende.
Grosse
amende. Ouais, donc là, ça l'a calmé. Il est un peu vénère, tu vois. Donc il se dit, je vais monter une expédition pour aller jusqu'à la baie d'Hudson. Et là, ça appartient à personne à l'époque. Et donc, je vais découvrir la baie d'Hudson. Et donc, je vous passe les détails, mais en gros, il va voir les Français. Il leur dit, ouais, je vais monter une expédition pour aller à la baie d'Hudson. Personne ne l'a découvert. Je veux que ce soit à nous, les Français et tout. Mais les Français, ils en ont marre des conneries de Radisson. Tu vois, ils disent, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à Amsterdam, t'apparais dans des rêves. Là, tu nous casses les couilles. Vas-y, dégage. Donc, il va passer un deal avec l'Angleterre. Et là, avec l'Angleterre, il crée la compagnie de la baie d'Hudson. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui, ça me dit quelque chose. Ça ressemble un petit peu à...
Au magasin qui est à Square Phillips.
Exactement.
Eh ben, c'est cet énorme BG qu'il a fondé, gros.
Quel boss.
Voilà. Ben, bon, après, il était employé, tu vois. Mais, donc, il travaille pour la baie d'Hudson. Il découvre la baie d'Hudson. Ça va, il y a du fric, mais il le traite un peu comme de la merde, du coup. Du coup, il en a marre, tu vois. Il se dit, fuck that shit. Je retourne avec les Français. Bang! Il retourne en France. Il va voir Colbert. Pas le canard. Le ministre de Louis XIV.
Colbert, pas le Colbert.
C'est ça. Donc, il va voir Colbert, le ministre de Louis XIV, qui lui dit « Ouais, tu sais quoi, ben, on va niquer les roast beef, tu retournes à la baie d'Hudson et tu prends le territoire pour les Français. » Donc, à la base, il l'a découvert pour les Anglais. Là, il revient le prendre pour les Français. Il dit « Ok, il prend le bateau, il y va, il nique leur mer. » Il reprend le territoire. Puis après, il reste un peu à Trois-Rivières, il fait du beef, tu vois, tranquille, fourrure et tout. Mais là, le Canada taxe sur la fourrure. Et Radisson, tu vois, c'est un peu le Netflix de l'époque. Il dit « Nique sa mère, je veux pas payer des taxes, je rentre en France, ils vont me rembourser mes taxes. » Et en fait, manque de chance, Colbert est mort. Il a fini en magret.
Oh shit.
Et donc, les Français lui disent, va bien niquer, t'es mort, on te donnera pas un centime. Il dit, ok, je retourne en Angleterre. Et en Angleterre, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, frérot, va chercher la baie d'Hudson. Le mec, il se fait des guerres tout seul, tu vois. Donc, il retourne à la baie d'Hudson, qu'il a découvert en tant qu'anglais, qu'il a reconquéri en tant que français, et là, il va la reconquérir en tant qu'anglais, ce fada. Donc, il y va, il se fait la guerre, tu vois, tout seul, en fait. Hein, il joue aux échecs, il fait les noirs et les blancs. Et en fait, il n'y arrive pas trop à reprendre la baie d'Hudson. Louis XIV, il a mis un contrat sur sa tête, en mode, vous le chopez, je vous donne plein de thunes. Il se dit, c'est chaud, il dit, je rentre en Angleterre et il finit sa vie en Angleterre, pauvre, et il meurt.
Oh!
Merci de m'avoir écouté.
Waouh, avec sa petite bouille, là.
Ouais! Le boss qui apparaît partout.
Putain,
qui fait...
le mec s'est mis dans une sauce incroyable. Quoi.
Ouais.
Tout seul, quoi.
Mais je crois qu'il y a une série télé sur lui, une vieille série télé québécoise. Et c'est quand même un gars connu, tu vois, du Québec. Pierre Esprit Radisson.
Ils ont réussi à le filmer en docu un peu, quoi. Un peu comme on parlait juste avant, quoi.
Tu casses les couilles.
Station de métro à Montréal. Excellent. Merci beaucoup pour cette page d'histoire. On a apprécié que tu nous racontes
la
vraie histoire de Pierre Esprit
Radisson.
Alors, on passe au sujet suivant. Il me semble que tu avais un petit jeu.
Yes, j'ai un petit jeu.
Ah bah, merci, moi je suis chaud pour jouer. Hein.
Ok.
Un jeu excitant.
C'est non. Alors, c'est un jeu qui part de l'information que j'ai eue qu'en fait, je crois que c'est en 2012, Justin Trudeau, l'actuel Premier ministre du Canada, il s'est fait connaître parce qu'il a fait un combat de boxe contre un sénateur.
Ah ouais, c'est connu ce truc-là.
Ouais. Donc, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. J'ai pas trouvé tous les détails. Ça va, c'est la boîte à cam, c'est très bien.
Alors, il y a un documentaire qui existe.
C'est vrai.
Ouais, il y a un documentaire qui existe.
Il avait un désaccord avec ce gars, en fait.
Ouais, il y avait un désaccord politique. Ils se sont dit, on va se régler ça sur le ring.
Ouais.
Et donc, ça a été ultra médiatisé. Quoi.
Ouais. Puis, mais c'était les gains étaient caritatifs du truc de.
Ok.
Ouais.
Ouais, évidemment.
Mais je me suis dit, c'est trop bien qu'on règle tous les conflits comme ça, en fait. Genre, les deux chefs, bagarre.
Exact.
Celui qui gagne, il gagne.
Il y avait eu le dernier duel qui a existé en France. C'était jusqu'au premier sang versé. Je sais pas si t'es au courant de cette histoire-là.
Tu me l'as déjà raconté, qu'on préparait le sujet.
Eh bien, en tout cas, c'est ça.
Oui,
c'est
parce qu'on prépare les sujets.
Exactement. C'est deux hommes politiques français qui se sont affrontés. Les images sont encore disponibles, elles sont en noir et blanc, et on les voit s'affronter devant une maison à l'épée, donc au fleuret. Mais c'est ça, ils se pointent et ils se pointent pour vrai. Donc le gars qui est le moins expérimenté se coupe deux fois, en fait. Donc, la première fois, en fait, il décide de quand même recommencer.
Il se fait couper.
Il se fait couper deux fois, quoi. Il se fait verser, en fait, 200, quoi. Et puis à la fin, le mec, il fait comme, ouais. Mais il était sûr de lui. Je pense que c'est Squeezie qui en a parlé dans une de ses vidéos. Il était vraiment sûr de lui parce que le gars allait se marier juste après. Il comptait arriver en héros à son mariage. Sauf qu'en fait, il a perdu son combat, en tout cas.
Mais il n'est pas mort.
Non, il n'est pas mort. Non, bien sûr, il n'est pas mort. Non, c'était très... très digne.
Ouais. Donc je me disais ça, donc j'aimerais, c'est un peu un jeu d'impro au final, je te donne deux gars et tu me dis s'il y a une bagarre, qui gagne et pourquoi il gagne, quoi.
Ok.
Donc s'il y a un combat de boxe.
Octogone sans règles.
Octogone sans règles, Macron contre Mélenchon.
Macron-Mélenchon.
Ouais.
Waouh, gros.
Mélenchon, il est agressif, mais Macron, il est jeune.
Exactement, je pense que c'est la jeunesse de Macron. On l'a vu courir, il s'est pas mal mis en scène et tout, sur différents trucs un peu sportifs. J'ai jamais vu Mélenchon se faire un 100 mètres, quoi.
Ouais, mais tu l'as vu croquer des journalistes en direct et presque leur mordre la gorge.
C'est plus un roquet qu'à mon avis. Le mec, il utilise plus sa force de frappe qui est, tu vois, sa puissance, elle est dans sa gorge, à ce mec-là, tu vois. C'est son coffre.
Ok, donc tu donnes Macron gagnant.
En fait, ouais, c'est ça. À moins qu'ils aient des pouvoirs spéciaux. Est-ce qu'ils peuvent avoir des pouvoirs spéciaux ?
Ouais, bien sûr.
Ok, donc à ce moment-là, si Mélenchon et tout, son pouvoir spécial, c'est la sainte autorité. C'est-à-dire que quand il déclenche son pouvoir en disant « La République, c'est moi », il est capable d'ordonner n'importe quoi à son adversaire. Ouais. À ce moment-là, je pense qu'il gagnerait contre Macron. D'accord. Mais sinon, je pense que Macron le...
D'accord. Et si ils ont des armes, Macron, il a une faucille. Mélenchon, il a une faucille et un marteau. Et Macron, il a
juste en marche.
Il a
ses pieds.
Non, il a des seringues.
Il a des bonnes chaussures.
Il a plein de seringues remplies de vaccins bizarres. Okay. Qui gagne?
Ben, on sait que le vaccin, ça sauve des vies. Donc, je te dirais, il est mal prep, Macron.
Ouais, mais il a le Spoutnik et tout. Hein. Il a des vaccins douteux aussi. Hein.
Okay. Je sais pas si le fait de mélanger tous les vaccins serait bénéfique à son combat ou au contraire donnerait de la puissance à Méluche et tout, qui se transforme en une sorte de super-homme de l'URSS, en Mother Russia, tu vois.
Ouais, j'avoue.
Et c'est ça. Donc, je suis un peu sceptique.
Très bien.
Pour le coup, mais je dirais quand même Macron.
Tu donnes Macron. Ouais, okay. Ouais. Deuxième combat, Gandhi versus Reine Elisabeth II de l'époque de Gandhi. Donc pas celle de maintenant, celle de l'époque de Gandhi. Contre Gandhi.
Ok. Waouh. Reine Elisabeth II contre Gandhi.
De l'époque de Gandhi.
Mais Gandhi, tu vois, il me fait penser à ce personnage, c'était dans Street Fighter. Là,
Dalsim. Hook of Fire.
Exactement, tu vois, avec son crâne rasé.
Ouais, il y a moyen qu'il fasse du Hook of Fire.
Le fakir, là.
Ouais.
Donc, tu vois, il me fait penser un peu à un fakir. Et je pense que lui, il maîtrise certaines conditions de son corps. Pour le coup, on n'a pas besoin de pouvoirs spéciaux, là, tu vois.
Puis, ouais, mais
la reine Elisabeth, elle est capable seulement d'attaquer avec des couleurs, tu vois, des couleurs flash.
Non, je pense qu'elle est full entraînée, en vrai. Hein. Je pense qu'ils doivent l'entraîner un petit peu, hein, au cas où il y a la bagarre. Hein. Surtout à l'époque, elle était encore jeune. Hein.
Moi, je dirais dans son sac à main, elle peut cacher des trucs, tu vois.
Ouais, il y a moyen. Puis je pense qu'elle se débrouille au fleuret, tu vois.
Ah ouais ?
Ouais, je pense.
Ouais, mais c'est ça, après, tu sais, c'est octogone sans règles, là, donc est-ce qu'elle arrive avec un fleuret ? Elle arrive avec un gun dans sa sacoche, tu vois, on sait pas, tu vois. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr que les
pas de gun, par contre, pas de gun.
Pas de gun, bon. Pas de gun, mais je dirais quand même Gandhi, tu vois, celle qui, à mon avis, maîtrise l'art de pouvoir... tu vois, c'est une sorte de Monsieur Burns, un peu, tu vois, j'imagine comme ça, sur le... Tu vois, il est tout mou. C'est-à-dire que tu essaies de le taper, il glisse en fait.
Ouais. Il peut étendre ses bras et tout, ok.
Il étend ses bras, tu vois. Exactement, tu vois.
Ok, donc tu donnes Gandhi.
Et je dirais Gandhi, ouais, okay. Malheureusement. Okay.
Alors, troisième combat.
Ou heureusement d'ailleurs.
Troisième combat, donc on est dans les années 90.
Ok.
On est fin 90, début 2000.
Ok.
Et là, il y a un désaccord qui arrive au gouvernement et on a un octogone, Chirac contre Jospin.
Chirac Jospin.
Ouais.
Wow, putain, gros, c'est Chirac qui gagne.
Ah ouais ?
Bah, 100%, mec, la puissance de la Corona, quoi.
Ouais,
tu connais un peu le personnage, tu vois, tu sais, genre, bon franchouillard et tout. Bon, quoique aujourd'hui.
Jospin, il était en forme, hein, physique, quand même.
Ouais, je pense que Jospin, il était grave en forme, mais. Tu vois, moi, je pense que Jospin, tu sais.
Je pense que Jospin, il connaît le karaté.
Je pense que Jospin, il griffe et il mord, tu vois. Il tire les cheveux, tu vois.
Ouais.
Tu vois, tandis que. Chirac. J'allais dire notre ami Chirac, c'est pas notre ami Chirac, merde, je l'ai jamais connu ce gars-là.
Putain, putain, les gars, arrêtez là. Arrêtez de dire les politiques, c'est vos amis, quoi.
Excellente imitation de Jamel Debbouze.
Ok, donc...
Donc je dirais davantage Chirac.
Ok, tu donnes Chirac. De toute façon, ouais. Tu le donnais clairement dès le début. Ok, quatrième combat.
Ça fait chier, je dis que des mecs de droite à chaque fois.
Bah, Gandhi, il est pas de droite.
Gandhi, il est grave de droite, frérot.
C'est vrai qu'il était un peu raciste.
Méga capitaliste aussi.
Donc, tu vois, Zemmour, c'est un peu le Trump français. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est toujours battu contre Trump et qui décide de venir en France régler ce colibé. Et c'est Bernie Sanders qui fait un octogone contre Zemmour.
Waouh, gros, ça fait chier, frérot, parce que je kiffe Bernie Sanders, tu vois, mais je crois que c'est...
Il se fait graille.
Je pense qu'il se fait graille, tu vois.
Zemmour, il boit Bernie Sanders.
Exact, tu vois.
Ah ouais, les deux, ils sont yeuves, ils sont freluqués et tout, tu vois.
Et bien, pour le coup, là, on a un vrai Monsieur Burns, quoi. Zemmour, c'est Monsieur Burns, quoi. C'est...
Clairement.
Ah putain, non, il dégoûte ce gars-là, tu vois, il dégoûte tellement qu'à mon avis, tu sais, genre le toucher Bernie Sanders, il attrape une maladie, je pense, tu vois, il en crève, tu vois, même s'il gagne le combat, tu vois.
Je pense Bernie Sanders, il lui met des petits coups de mitaine.
Je pense que c'est contagieux, Zemmour, tu vois.
Des petits coups de mitaine des Vermont, là.
Exact. Ouais, c'est vrai qu'il a les gants de boxe, Bernie, pour le coup, ouais, c'est vrai. On l'a vu, les tricotés. Mais, ouais.
Ok.
Ouais, non, Bernie, ouais. Bernie est pro-arme, hein. Bernie est pro-arme, il me semble. C'est,
donc, ça peut jouer.
Donc ça peut jouer. Finalement, ça peut être un gros gars. Tu vois. Finalement, c'est pas comme ça. Tu vois, mais...
Ok. Donc tu donnes qui?
Donc je dirais quand même Zemmour.
Ah ouais, putain, c'est vrai que t'aimes, tu fais que les ondes droites. Hein. Donc il y a un désaccord qui apparaît entre la France et la Russie.
Ok.
Et Poutine propose un octogone à toute l'Assemblée nationale.
Je pense que Poutine gagne, mec.
Toute l'Assemblée, il y a 200 députés. Hein.
Ouais, je pense que c'est un peu...
Comme dans Matrix, c'est quand tous les Smiths, ils vont sur lui, bam, 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 il arrache un panneau du sol, tac, tac. Il s'envole à la fin.
C'est le big boss, tu vois, il est imbattable.
C'est le boss de fin.
Est,
ouais, mais toute l'Assemblée nationale, hein. Il y a du monde. Hein.
Ouais, mais son corps n'est pas...
Ils ont des petits couteaux et tout.
Son corps m'a été affûté pendant des années, mon gars. Il y a des gars qui le préparent, ce gars-là. C'est une arme de destruction. Il y a qu'à le voir torse nu, mec.
S'il veut envahir la France, il nique toute l'Assemblée nationale.
Déconner, moi, l'Assemblée nationale, c'est au petit déjeuner, d'ailleurs.
C'est de 7 à 8.
De 7 à 8.
Après, il commence sa journée.
Exactement. Genre, c'est lui qui fait les mises à mort en Russie, c'est lui qui les fait.
Personnellement, il y tient.
Juste le doigt.
Il y tient.
Il pointe le doigt dans le front du mec.
Mais Vlad, vous avez beaucoup de choses à faire. Non, je veux faire la mise à mort.
Il arrive juste... pousse son doigt très fort tout sur la boîte crânienne et ça fusille, les gars, comme ça. Pas très connu, hein.
Bon, on déclasse les dossiers ici, de toute façon.
Exactement. X-Files, c'était la session un peu X-Files.
Très bien. Bah écoute, je te remercie. J'ai bien noté toutes les réponses.
Donc finalement, on a qui, là, dans un combat de fin, là? Tu sais, genre, faudrait savoir.
Ouais.
La boîte à camembert, c'est aussi ça.
C'est aussi ça.
Le podcast où tu apprends un petit peu des solutions, tu vois, des petits tricks, quoi.
On a des petits tricks life. Ouais, pour sauver la planète.
Voilà,
c'est
donc
ça.
Des combats, finalement. Tu sais, genre, si vous avez une embrouille avec votre daronne, combat.
Direct.
C'est plus facile, je pense, en fait, de passer directement en main.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas besoin de s'expliquer, il n'y a pas besoin de chercher des explications pendant très longtemps. Bon, allez, on passe à la dernière section, mais pas des moindres. Puisqu'on va parler pour la première fois d'un sujet, alors, c'est un petit peu... La pipe, le feu de bois, le livre, la peau d'ours. Oui, parce qu'on va parler littérature, mais pas vraiment. Alors, jingle de Fake Histoire.
C'est cela, oui.
Ouais, parce qu'en fait, je voulais parler BD. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de BD. On avait déjà parlé de bouquins quand on avait reçu Kyriam avec nous, qui nous avait beaucoup parlé de lecture. Et on sait que c'est une grande, grande liseuse.
25 livres à l'année.
Grande liseuse, grande lectrice.
Ouais,
moi, ça se voit.
En anglais, on dit un bookworm.
Un bookworm.
Un ver à livres, tu vois. Genre, elle les bouffe, les livres, tu vois.
Un dévoreur de mots.
Ouais, pas de monde, mais de mots.
Un dévoreur de mots. Et donc, petit Ro, voilà, que tu couperas au montage, ou peut-être pas, d'ailleurs, j'aurai la surprise de le voir plus tard. Mais c'est ça, en fait, je voulais un peu mettre l'accent sur certains trucs et tout qui m'ont percuté en bande dessinée. Et je trouve que c'est un média sur lequel on ne parle pas souvent. C'est vrai que c'est considéré surtout pour les jeunes, tu vois, la bande dessinée, c'est rare.
Surtout qu'on est tous les deux grands fans de bande dessinée, en plus. Vraiment. Dans des univers différents, mais c'est vrai qu'on s'y connaît quand même pas mal, je pense, en toute modestie.
Mais j'aime, ouais, c'est ça. Pour le coup, je suis très éclectique et tout en termes de bande dessinée. J'ai beaucoup lu de comics, je pense que c'est comme ça que j'ai dévoré le plus de bandes dessinées, c'était des comics de super-héros et de Batman principalement. Mais j'apprécie aussi la bande dessinée européenne, belge et française, qui à mon sens est un des meilleurs trucs et tout, parce que c'est des scénarios que tu vois nulle part ailleurs.
C'est un trait aussi qui est complètement différent.
C'est un trait qui est différent aussi. Et donc en fait, c'est ça. Moi, je voulais parler de certains passages qui m'avaient marqué en bande dessinée, tu sais, comme qui ont pu te marquer. Bon bah en lisant un livre, en écoutant, parce que finalement c'est ça aussi. C'est le 8e art, il me semble, la bande dessinée.
Ça se peut.
Il me semble que c'est ça, considéré comme le 8e art. C'est un peu ce mélange entre le cinéma, j'ai l'impression, et la lecture, quoi. Finalement, j'aime bien, j'ai l'impression de donner une définition de la bande dessinée. C'est au cas où s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. Eh bien, c'est ça. C'est un livre avec des images. Des images dessinées, comme son nom l'indique. Et donc, c'est ça. Mais, principalement, c'est genre tu te fies beaucoup à... au trait, à l'image, au dessin, c'est genre le premier truc que tu vas choisir dans une bande dessinée en général, c'est
le graphisme t'es prêt ou pas. Ouais.
Et ensuite, tu cherches les bons scénarios. Et petit à petit, tu tombes sur des scénaristes de bande dessinée qui sont excellents. Et donc, tu les suis un petit peu comme ça. Je pense notamment à un artiste que tu m'as fait découvrir dernièrement. Je pense récemment, c'est ça que j'ai dit ? Je pense surtout à un artiste que tu m'as fait découvrir dernièrement qui s'appelle Fab Caro et qui est en train de cartonner en ce moment.
Ouais.
Parce que le mec a ses textes qui sont...
Mais le mec aussi écrit des livres. Si tu veux, je prêterai un livre d'ailleurs de Fab Caro.
Ok.
Et il a écrit deux livres qui ont vraiment été bien vendus.
Est-ce que c'est absurde aussi ?
Ouais, c'est pareil, c'est le même style. C'est Le Discours, je ne l'ai pas lu, et Broadway, et Le Discours qui a été adapté en film il n'y a pas longtemps, là, au début de la rentrée, où il y a Kian Kojandier et il y a beaucoup de gens qui jouent dedans. Apparemment, le film est bien aussi.
C'est ça, et puis là, c'est Simon Astier, le frère d'Alexandre Astier, qui dit ses textes sur scène en ce moment. Puis je sais qu'il y a une série aussi, Canal+, qui a été adaptée d'une de ses bandes dessinées.
Le gars est très prolifique, ouais.
Très, très prolifique, et je ne connaissais pas du tout. Alors, pour des gens qui voudraient mettre un pied dans la bande dessinée, je pense que c'est...
C'est super.
C'est un putain
Zai, de... Zai, Zai, surtout, franchement, c'est vraiment... Tu découvres vraiment l'univers du gars, quoi.
Exact. Tu sais, des petites scénettes, parfois, c'est des trucs qui vont se lire sur 3-4 pages, qui vont avoir un lien, mais toujours très découpés, de manière à ce que le morceau, le gag de l'histoire tienne sur une page. Et vraiment très cool. Il y a des bandes dessinées, moi aussi, qui m'ont marqué, que je parle de Walking Dead. Avec la mort de Glenn, voilà, c'est peut-être un spoiler pour certains, mais si vous avez vu la série aussi, ça apparaît. Alors, dans la série, ils ont tué deux personnages. Ils ont tué Glenn et ils ont tué... Quand c'est arrivé dans la bande dessinée, j'étais tellement accro à cette bande dessinée-là, j'ai eu la chance de pouvoir la commencer au moment où il y avait beaucoup d'épisodes qui étaient sortis. Et finalement, celui-ci faisait partie peut-être des épisodes où j'étais arrivé. Tu sais, genre, ça sortait au fur et à mesure. Là, tu sais, genre, il fallait que j'attende 2, 3 mois, 6 mois parfois pour que le nouveau tome sorte. Et donc j'étais très attaché à tous ces personnages-là et de voir, c'est ça en fait, la manière dont c'est monté, la manière dont ça a été découpé en fait en bande dessinée, c'est-à-dire que tu ne sais pas, tu vois le gars qui joue à Inimini Manimo là, sur les têtes des gens avec sa batte de baseball et tu vois tous les visages horrifiés de tout le monde jusqu'au moment où tu vas tourner la page parce que le mec, la dernière image qu'on a c'est Negan qui tend sa batte et qui dit... Le dernier truc, tu vois, c'est genre Amstragram, piqué, piqué, collégam, bourré, bourré, ratatam, Amstramgram, tu vois. Et sur le dernier gramme, on ne sait pas sur qui il est tombé, on le voit juste avec sa batte. Et la scène d'après, il défonce le crâne de Glenn, quoi. Il défonce le crâne de Glenn, t'as un œil qui sort, c'était absolument atroce. Et ce truc, c'est très gore les détails que je donne, mais ce truc m'a vraiment beaucoup traumatisé, quoi. C'est-à-dire que j'ai arrêté de lire à ce moment-là, j'ai posé la bande dessinée, j'avais les larmes aux yeux et tout, j'étais « Ah putain, frère !» et tout, « Glenn, il est mort, gros !» Puis c'était tellement hardcore. Et quand ils l'ont fait après en film, j'ai une grosse montée d'angoisse qui est montée parce que j'avais l'impression que j'allais revivre ça et le passage était quand même assez terrifiant la manière dont ça a été amené.
Ouais, je me souviens, ça avait bien buzzé.
Ça avait bien buzzé et je pense que c'est après ce moment-là que ça a commencé à décliner et tout, c'est devenu moins intéressant, en tout cas à mon sens. Mais c'est ça, c'est aussi ce genre d'émotion-là et tout. Et je pense que beaucoup de gens pensent que la bande dessinée c'est davantage pour les enfants parce qu'on a tendance à voir ça comme des trucs extrêmement colorés, mais en fait il y a des histoires qui sont énormes. Il y a de la bande dessinée documentaire où il y a des gars qui vont vraiment en investigation, rencontrer du
monde. Ce qu'on appelle plus ou moins le roman graphique, quoi.
Exact. Il y a évidemment la bande dessinée japonaise, le manga et tout, avec aussi ce genre de trucs qui parfois peuvent t'apprendre beaucoup de choses. Je pense aux Gouttes de Dieu, qui est un manga sur le vin et qui te donne tellement de références de bouteilles et tout ça, qui t'apprend à parler du vin, tu vois, mais en lisant une histoire. très très intéressant, tu vois. Puis tu vas avoir aussi des trucs un peu plus what the fuck et tout, comme Saru Locke avec un personnage qui lui a le don de pouvoir ouvrir toutes les serrures, quoi. C'est juste ça, tu vois, genre, et là les mecs ils te sortent 25 tomes sur un gars qui est capable d'ouvrir toutes les serrures. Donc ouais, il y a beaucoup d'univers à découvrir.
Ouais, si vous voulez commencer, en vrai moi ce que je trouve super intéressant, c'est que maintenant il y a des auteurs de bande dessinée qui sont pratiquement exclusivement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tous les jours, tous les trois jours, ils vont te sortir pas une planche, mais quatre cases, quoi. Et puis après, à la fin de l'année, en général, tu vas les retrouver compilés dans un bouquin. Et des trucs souvent d'actu, mais des trucs super sympas. Moi, si je peux vous en conseiller quelques-uns, sur Twitter, il s'appelle Un Pied, il s'appelle Marc Dubuisson, en vrai, qui fait des BD d'actualité, qui est belge et qui fait sur l'actualité française et belge. Il y a Dessine Band, c'est un Québécois qui fait c'est aussi un humoriste, mais qui s'appelle Dessine Band sur Instagram et qui fait des trucs hilarants, absurdes aussi. Y a qui que j'aime bien?
El Diablo.
Non, je connais pas lui.
El Diablo, c'est le mec qui avait fait les Lascar.
Ah, ok.
Et il est installé à Montréal maintenant. Et ouais, c'est ça. C'est un bon truc en fait de parler de lui, parce que finalement, c'est un Français qui est venu s'installer ici et qui kiffe beaucoup sa vie, sa nouvelle vie en Amérique du Nord. Et il en parle dans une bande dessinée qui s'appelle un truc caribou.
Ok.
Putain de caribou. Non, je sais plus.
Stylé. Puis dans l'anglophone aussi, il y a Safely Endangered, c'est vraiment cool. Il y en a plein, on vous fera peut-être une liste en description. Mais ouais, en tout cas, j'adore la bande dessinée sur Insta. À chaque fois que je suis dans mon feed, là, que je vois des trucs trop courts d'Insta, là, je vois la petite bande dessinée, je suis refait. Ah oui, Théo Grosjean aussi, que j'adore.
Wesh Caribou, la bande dessinée.
Là, je regarderai.
Ouais, vraiment très bon.
Théo Grosjean aussi qui parle de ses angoisses et tout, super intéressant. Il y a vraiment plein de trucs trop bien.
C'est ça. Vraiment, c'est alors. On reviendra, si ça vous intéresse, on reviendra avec des petits conseils bande dessinée. Là, je sais que Flo m'a donné trois belles bandes dessinées et tout, je vais me régaler. Alors, juste pour vous expliquer ce que c'est, on a deux Fab Caro, et puis on a un autre truc qui, de Emmanuel Rezé et Nicolas Rouault. Faut pas prendre les cons pour des gens.
Il y a un deuxième tome aussi que je ne possède pas.
Fluide glacial. Ouais. Je pense que
même, c'est le même style les deux.
Ça, c'est sûr. Ouais. C'est ça qui est chouette, d'avoir des amis qu'on aime et des putains de podcasts comme ça qui sont faits par des putains de potes et qui donnent des bandes dessinées. Ça fait plaisir.
Parce que c'est mon pote fait cette putain d'émission de radio qui est trop bien.
Peut-être dédicace. Si vous l'avez, vous nous le direz.
Salut, c'est le E. Étant donné que l'épisode avait été enregistré en décembre et qu'on sort l'épisode en mars, la fin de l'émission avait un peu rien à voir. Alors, je vous fais ce petit message juste pour vous l'expliquer. J'espère que vous avez passé une bonne heure en notre compagnie. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye. Ferme ta boîte à camembert.